Alors, si j'ai bien compris, parce que je débarque un peu là-dedans, le thème pour aujourd'hui, c'est surtout le choix des citoyens. Il y a un certain nombre de personnes qui sont prévues comme intervenants, mais je crois que l'idée, c'est surtout d'aussi avoir un débat, de prise de parole d'un peu tout le monde. Moi, je propose peut-être pour commencer, mais évidemment, si Pierre ou les organisateurs, ils ont quelque chose à proposer, aucun problème. Mais déjà, je pense pour l'émission, ce serait intéressant de connaître les organisateurs donc de ces journées. C'est la fondation Science Citoyenne. C'est Jacques Marais, je crois. On peut faire une petite présentation déjà de la fondation.
Alors, la Fondation Sciences Citoyennes, c'est une association de 1901 qui a été créée par des chercheurs, des lanceurs d'alerte et des citoyens, en fait, pour rendre accessibles les dossiers qui sont soumis à l'omerta des entreprises ou l'omerta administrative, pour pouvoir donner la capacité aux citoyens de se faire une opinion sur, on peut citer l'énergie nucléaire, on peut citer les OGM, on peut citer la chimie, par exemple un dossier actuellement qui est très en vue, c'est la probable interdiction du bisphénol A, qui est un produit qui n'a jamais été testé, qui est indispensable dans les plastiques, donc qui permet, si on l'interdit pour toxicité avérée, puisque les études sont sorties maintenant, aux citoyens peut-être de se dire on va changer de mode alimentaire et ne plus acheter des produits préemballés, ne plus acheter des produits congelés, parce qu'ils sont dans des produits qui ne sont pas testés. On peut parler de la chimie agricole, on peut parler par exemple, un dossier en ce moment, des héparines frelatées qui étaient produites en Chine, où un chercheur vétérinaire de... Je ne me souviens plus de la boîte, donc je ne la nommerai pas, s'est fait virer parce qu'il a dit, attention, les héparines venant de Chine, on n'est pas sûr de leur qualité, et on le défend auprès des prud'hommes pour qu'ils soient réintégrés, soient indemnisés. Ce sont des sciences citoyennes essayent de, en quelque sorte, d'ouvrir les dossiers et de les exposer aux citoyens pour que y ait capacité, une égalité des gens pour pouvoir se faire une opinion et choisir en conscience. Alors c'est un exercice politique au sens basique du terme pour la vie de la cité, quoi.
Et vous faites assez régulièrement des festivals un peu comme ça, des rencontres?
Alors le festival Science en Bobine doit exister depuis 5, 6, 2005, donc c'est la 7e édition. Parisienne, ici c'est la deuxième. Il doit y en avoir cinq en tout sur la France cette année, et qui est toujours, enfin cinq lieux, Villeneuve-d'Ascq, Rennes, Avignon, Montpellier, donc ça fait six, Trèsclehou et Paris. Basé sur, en général, ça s'appelle Science en Bobine, parce que basé en général sur le support d'un film, pas la peine d'en citer, mais ça peut être n'importe quel film sur n'importe quel sujet de société et qui permet d'ouvrir un débat par la suite, sur tous les sujets ayant rapport avec l'application des sciences et techniques à la vie quotidienne.
D'accord, alors je vois que ces 3 jours, il y a différents thèmes qui ont été abordés. Je vois les questions des nanos, il y a un bas sur les gènes, donc des films sur les questions, les questions des gènes. Et puis aujourd'hui, il y a pas mal sur le nucléaire. Alors, je ne sais pas exactement comment on va procéder, mais je pense que, par exemple, ça pourrait être intéressant de faire juste une petite introduction et après revenir plus en détail sur, par exemple, déjà le nucléaire, parce que il y a André Paris qui est là, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, et que à Radio Zinzine, on connaît, parce qu'il a fait beaucoup de travail autour de Siston et ailleurs. c'est pas du tout la première fois qu'il parle à notre antenne. Mais il y a également, si je comprends bien, Pierre Leroy qui est là, qui est maire depuis Saint-André, qui est pas loin d'ici, et qui donc là c'est le choix énergétique dans une municipalité. Donc logiquement quelque part lié à la question du nucléaire. Donc peut-être on pourrait, je sais pas, donner la parole à André Paris pour le moment pour une première intervention.
Bon, pour me présenter, je dirais que entre science et citoyenneté, je suis traumatisé par les deux. Parce que, en tant que scientifique de vieille coutume, je croyais que la science était par nature, par épistémologie, comme disent les philosophes, résistante au trafic, à la falsification. Falsification, non pas au sens noble, mais au sens quasi mafieux du terme. Et je me suis rendu compte, en faisant des mesures de contamination radioactive dans ma région, ma commune, mon jardin, mon pays, et après une grande partie de l'Europe, mais je parle pour l'instant de mon pays, que finalement les institutions scientifiques françaises sur le sujet des contaminations radioactives avaient été unanimement perméables à la corruption. Et j'ai découvert l'étendue de la capacité corruptrice vis-à-vis des institutions scientifiques de l'édifice atomique français.
Mais ça, c'était surtout, si je ne me trompe pas, entre autres, suite à Tchernobyl et que vous avez donc fait des prélèvements. Et c'est, je pense, vous travaillez avec le CRIRAD. C'était peut-être important de signaler qu'il quand même, c'était très nécessaire de mettre en place une structure qui, voilà, qui apportait vraiment des données beaucoup plus précises et exactes, quoi.
Alors, sur le terrain des contaminations, ma conviction qui explique, mais qui ne justifie pas le mensonge français, au taquet et au bout de la réflexion, c'est la suivante. C'est que, un, les contaminations radioactives qui ne se voient pas de façon évidente, un, la nature saura s'en débarrasser très vite. Il suffit donc de mentir un certain temps avant que la nature s'en débarrasse. Et deux, les citoyens seront assez incompétents et couillons pour ne pas s'en apercevoir. Et sur ces deux hypothèses qui, à mon avis, expliquent le mensonge initial et un peu téméraire français, il y a deux erreurs. D'abord, les contaminations radioactives sont extrêmement durables. Gardées en surface, il y a une grande mémoire de la surface de vie de notre sol vis-à-vis des contaminations radioactives. Et deux, en ce qui concerne la citoyenneté, il y a des personnages comme Michel Rivasi qui créent la CRIRAD. Et alors que les institutions exigent un niveau de compétence extrême pour justifier la difficulté qu'il y a à mesurer une contamination radioactive, alors qu'en fait c'est très simple, faut construire des laboratoires très chers pour être légitime, pour égaler la compétence, etc. Et Michel Rivasi a dit, j'égale la mise, c'est la création de la CRIRAD, une institution qui maintenant est vieille de plus de 25 ans et qui n'a jamais commis d'erreur scientifique, qui est toujours restée très droite dans ses conclusions. On ne peut pas en dire autant de ses interlocuteurs institutionnels en face d'elle.
Juste avant de continuer, je vais préciser, là ça allait tout à fait, mais c'est important de mettre le micro sous la bouche parce qu'on a en radio les célèbres pop. C'est les P comme ça quand on parle juste devant le micro et c'est très très pénible quand on essaie de monter une émission. Donc je propose de continuer peut-être avec Monsieur Leroy. Ou alors, oui.
Samuel Josua est arrivé, donc c'est pour vous prévenir.
D'accord. Ben, on pourrait peut-être évoquer cette question parce que c'est très très lié bien sûr avec le choix des citoyens, mais aussi des choix des pouvoirs publics ou des municipalités. Ou est-ce que c'est possible de vraiment à un niveau d'une municipalité de faire des choix énergétiques?
Alors déjà, je vais souhaiter longue vie à Science en Bobine parce que je trouve que c'est une très très intéressante initiative. On a parlé de Oui, on a parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte. Moi, ça m'a fait penser aussi au mouvement Transition Town, qui se développe dans le monde entier aujourd'hui, et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et en tant qu'élu, on a vraiment besoin des citoyens pour justement faire évoluer les choses. On m'a demandé de participer et j'ai accepté volontiers parce que je pense que c'est essentiel. Et on m'a demandé à deux titres, à la fois en tant qu'élu, donc moi je suis militant écologiste depuis une trentaine d'années et je suis maire depuis 3 ans d'une des communes de Serre-Chevalier dans le nord des Hautes-Alpes. Et je suis vice-président d'une communauté de communes, mais aussi on m'a demandé d'intervenir en tant que formateur, parce que je suis formateur dans un institut de formation soins infirmiers, et j'ai testé depuis 6 ans des conférences citoyennes en termes de formation auprès des étudiants, donc qui font référence justement à tous les problèmes scientifiques. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de travailler. Les conférences doivent se passer le 7 et 8 novembre sur les nanotechnologies, sur la légalisation des drogues douces, sur les vaccinations, sur l'euthanasie active et sur la ligne très haute tension qui va se développer tout le long du département des Hautes-Alpes. Donc en tant que maire et en tant que citoyen, bon, c'est une chose, l'équipe qui m'accompagne est très sensible à la démocratie et au choix des citoyens. Et on a travaillé sur le domaine de l'énergie, entre autres, en souhaitant essayer d'aboutir au bout d'un certain temps sur une autonomie énergétique de la commune. Et pour ce faire, on souhaitait que les citoyens participent à cette opération. Donc l'objectif était de créer une coopérative de production énergétique. Ce qu'on a réalisé au bout de 9 mois de travail, après une étude juridique et financière, et 31 familles d'une commune de 500 habitants nous ont suivis dans cette opération. Donc il y a 31 familles qui ont investi cette société et qui produit aujourd'hui de l'énergie alternative, soit photovoltaïque, soit hydraulique, sachant que le photovoltaïque n'est pas l'idéal. L'hydroélectrique est nettement plus intéressant et aujourd'hui, on envisage de turbiner l'eau potable de la ville de Briançon. Donc c'est la commune de Puy-Saint-André qui va aller turbiner l'eau potable de la ville de Briançon pour produire de l'énergie. Donc ces familles sont investies, elles y participent et à travers ça, c'est aussi tout le travail sur la sobriété énergétique. Se produire de l'énergie, c'est bien joli. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est que vraiment cette dynamique de sobriété énergétique se développe sur le territoire. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Je pourrais détailler, parce qu'il y a un atelier tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas passer beaucoup de temps sur cette affaire-là. Les conférences citoyennes, par contre, c'est quelque chose qui est très important, qui fonctionne bien. J'ai un document de l'ENA, de la promotion 97-99, qui disait « L'indépendance renforcée de l'expertise et la séparation de l'évaluation » et de la gestion sont inadaptés à la nature des controverses sanitaires. La délibération collective sur le risque doit être organisée et les différentes expertises entendues. Et dernièrement, la mise en place d'une véritable stratégie de communication ne peut être un substitut à la recherche d'une réelle démocratisation des choix sanitaires. Et donc, il existe en effet les conférences citoyennes, surtout dans les pays nordiques et aussi en Suisse. C'est un système qui est assez simple. En fait, il y en a une en France qui s'est faite en 1998 à Paris, à l'initiative de Jean-Yves Ledéau, qui était alors député de Meurthe-et-Moselle. Il était président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. Et donc, des citoyens sont tirés au sort dans la population. Ils n'ont a priori aucune connaissance sur le sujet. Et ils font une audition d'un certain nombre de spécialistes qui émettent, qui leur présentent un petit peu ce qu'ils pensent de certaines techniques. Là, en l'occurrence, c'était sur les OGM. Après avoir entendu tous ces experts de différents bords, ces populations doivent donner un avis. C'est ce qui a été fait à l'époque. Il y en a eu. La question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Donc ça, c'est une autre chose. Donc j'ai voulu tester ça au sein de l'institut dans lequel je travaille. Donc les étudiants choisissent un certain nombre de thèmes. Une fois qu'ils ont choisi ces thèmes, ils travaillent pendant entre 15 et 18 heures. C'est assez court, mais les résultats sont très surprenants. Quand ils ont un peu découvert de quoi il s'agit, ils se positionnent de pour, de contre, suivant la question posée. Par exemple, sur les nanotechnologies, la question est-ce qu'il faut mettre en place le principe de précaution concernant les nanotechnologies ? Donc il y a deux pour, deux contre. Ils choisissent un personnage réel qui existe en France actuellement. Ils se déguisent, certains. Et lors du débat, il y a une tribune avec une caméra en fond de salle. Et donc il y a les deux pour, les deux contre. Un animateur qui présente la structure, le sujet proprement dit. Les deux pour, les deux contre se positionnent grâce à l'animateur qui lance les débats, il s'interpelle, c'est extrêmement musclé. Et au bout de trois quarts d'heure à peu près, la population, qui est donc le reste des étudiants, pose des questions s'il y a des aspects qui ne sont pas complètement clairs. Et à l'issue de la réponse aux questions, la population vote sur la question. Je peux vous assurer que c'est très impressionnant parce qu'en très peu de temps, ils acquièrent des compétences et une expertise qui est très surprenante. Et c'est là où je me suis dit, mais ça devrait se développer partout. Parce que finalement, en très peu de temps, la population a véritablement les moyens d'aller au fond des choses. Les nanos, ce n'est pas simple. Hein. C'est un sujet qui est très complexe, qui touche énormément de domaines. Et quand je vois en 18 heures ce qu'ils sont capables de produire, vous avez l'impression vraiment d'être sur un véritable plateau télé. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait souhaitable de développer en France, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'est le cas aujourd'hui.
D'accord, merci. Je pense que ce serait intéressant de peut-être poursuivre avec Samuel Josua. Je vois que vous avez, une intervention sur la question science et démocratie. Donc il me semble que ça, c'est un tout petit peu lié avec ce qu'on vient d'entendre. Donc peut-être ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Oui.
Sur les conférences de citoyens, je voudrais rajouter que le seul risque, enfin, ça peut très bien fonctionner, mais il faut que le panel des entre guillemets experts soit des experts indépendants. Hein, c'est-à-dire que à ce moment-là, il y ait des, on va dire pour faire simple, des pour et des contre, quoi, de façon à ce que les citoyens jurés, on va dire quelque part, c'est un jury populaire, soient capables d'entendre tous les sons de cloche. Il ne faut pas que... Voilà.
Bon, ça mord un peu sur le débat de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on ne va pas répéter peut-être les mêmes choses, bon, mais en essayant de ne pas le faire. Moi, je suis d'accord sur le principe général qui a été exposé. Je suis d'accord sur les limites que vous venez d'apporter. Je voudrais insister, parce que je ne vais pas le faire tout à l'heure, sur les conditions sociales générales qui permettent ça. L'élément fondamental, c'est l'augmentation du niveau d'éducation de la population. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont très spécialistes de ce débat, mais vous savez que ça partage beaucoup la société, sur le fait, puisque beaucoup de gens défendent l'idée que le niveau général baisse, niveau scolaire en particulier, depuis très longtemps. Bon, moi, ce n'est pas mon point de vue. Vous savez peut-être que cette question de la baisse du niveau est une très très vieille question. Platon, déjà, affirmait que le niveau baissait. Et alors on se dit que si le niveau baisse depuis Platon, c'est encore heureux qu'il y en ait un. Quoi. Bon, en fait, évidemment, il n'y a aucune confirmation de ça. C'est exactement l'inverse. Bon, mais c'est une donnée importante parce que une des conditions qui permet ça, l'exemple que vous prenez, c'est quand même donc des élèves infirmières qui ont déjà un niveau d'éducation relativement développé. C'est un point bien sûr majeur. Donc on parle pour des sociétés dans lesquelles cette possibilité est donnée. Et pour autant, mais c'est ce que je vais développer tout à l'heure, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, il faut partir du point de vue que les gens sont aptes à gagner en compétences, mais que le point de vue démocratique fondamental, c'est qu'en définitive, malgré tout ce qu'on peut dire, le choix doit être donné à des incompétents, c'est-à-dire à des gens qui, parce que sinon il n'y a pas de démocratie. Voilà. Donc c'est ce que je vais développer tout à l'heure, bon, mais il y a beaucoup de contradictions à ça. Mais on ne peut pas demander que les gens choisissent tout en disant « vous avez le choix ». Mais pas sur tel sujet, pas sur tel sujet, pas sur, finalement sur un nombre de sujets considérables. Bon. Alors il y a une contradiction, si on ne veut pas faire de la démagogie, c'est ça la question qui est en cause, bon, parce que quand même certains de ces choix engagent la société pour des questions très importantes et pour très longtemps. Donc comment on peut arriver à donner ça? Alors donc, je vais juste développer un exemple, peut-être ça me permettra donc de ne pas le développer tout à l'heure. Moi, mon chapeau ici, c'est physicien de formation, hein, bon, spécialiste de l'éducation scientifique. Mais l'exemple dont je vais vous parler là, c'est en tant qu'élu. J'ai été élu dans les quartiers nord de Marseille, 15e et 16e arrondissement, pour ceux qui connaissent ça. Il y a une petite partie de population favorisée, surtout maintenant, c'est les stacks, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un vieux quartier ouvrier, mais maintenant, très, 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 beaucoup de modifications. Mais pour l'essentiel, quand même, c'est des populations qui ne sont certainement pas les populations en pointe du point de vue des niveaux scolaires de la ville de Marseille, et même sans doute du pays. Alors, le problème que nous avions à trancher, c'était le fait que nous avions un projet d'incinérateur. Bon, Et le maire de la ville, qui était le maire déjà à l'époque, et encore maintenant, Jean-Claude Gaudin, disait il nous faut deux incinérateurs. Un dans les quartiers sud de la ville, qui sont les quartiers bourgeois, et l'autre dans les quartiers nord, enfin dans la partie des quartiers où moi-même j'étais élu. Alors évidemment, dès que cette question a été posée, les populations ont commencé à s'alarmer, un peu par l'information elle-même, un peu par l'information que nous-mêmes nous donnions. Et donc, le refus général s'est installé en disant ben, il ne faut pas d'incinérateur. Alors, là, la première question qui s'est posée, c'est savoir quel axe exactement choisir. L'idée défendue par le maire, c'est un maire communiste, hein, Guy Hermier, qui est mort maintenant à l'époque, mais qui a laissé une trace très, très importante sur la ville de Marseille. Bon. Moi-même, je ne suis pas de ce parti, pour aller rapidement, hein, bon, disons. Donc, d'autant plus, je signale que son intelligence politique, sociale et tous les points de vue étaient très importants. Donc il a rencontré les représentants des populations pour leur dire, écoutez, si votre position c'est de dire pas chez nous, on va perdre. Parce que évidemment, si c'est pas chez nous, tout le monde va dire c'est pas chez nous. Donc ça sera pas dans les quartiers sud, par définition, puisque c'est les quartiers bourgeois qui votent pour Gaudin, et donc ce sera chez nous. Donc la question n'est pas seulement pas chez nous, mais de savoir si c'est juste ou non d'avoir un incinérateur. Donc la première question, c'est est-ce que c'est une question justifiée? Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça aide à le résoudre? Et deuxièmement, savoir par ailleurs où l'implanter. Parce que par ailleurs, en plus de tout, l'implantation dans nos quartiers était absolument désespérante, parce que c'est question de transport, des camions qui auraient circulé, etc. Et donc, premier choix, qui est un choix politique majeur, c'est d'entrer dans le détail, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'entrer dans le détail. Est-ce que l'incinérateur règle la question du traitement des déchets et dans de bonnes conditions? Alors, je ne veux pas faire trop long là, mais donc ça a mis des années. Hein. Donc très vite, le projet d'incinérateur dans les quartiers sud, c'est-à-dire à Saint-Menay, a été abandonné, parce que bon, les populations se sont levées en les disant pas chez nous. Donc évidemment, tout de suite, ça a été le cas. Et donc, c'était tout un incinérateur doublé de capacité dans les quartiers nord. Et donc, il y a eu une mobilisation d'un comité, 200, 250 personnes, ce qui est quand même beaucoup, hein, dont la responsable principale était une institutrice à la retraite. Tout le reste des populations était vraiment représentatif de ce qui était là. C'est-à-dire, comme en plus, ce n'était pas toujours des gens jeunes, beaucoup n'avaient pas de diplôme scolaire du tout. Et donc, au début, on pouvait se dire, ça va être n'importe quoi. Et ce qui est spectaculaire, c'est qu'il faut du temps, ça c'est vrai, mais que les gens sont devenus hyper spécialistes de la question. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, le refium, les déchets ultimes, enfin, ils connaissaient, mais c'était absolument spectaculaire. Bon. Ils sont allés regarder la documentation, certains se sont fait payer des voyages pour aller voir comment c'était traité à Barcelone, parce qu'il y avait d'autres choix qui étaient faits à ce moment-là. Ils ont étudié comment c'était fait à Hong Kong, puisque Hong Kong est une question particulière, c'est tout petit, il faut traiter les déchets, comment ils font. Et puis, ça s'est conclu par une réunion du conseil municipal, conseil d'arrondissement, donc chez nous, ouverte comme toujours, ouverte à la population, il y avait énormément de monde, avec des techniciens, les élus et les techniciens de la mairie centrale, celle de Gaudin. Et donc, vous aviez là tous les ingénieurs, tous les techniciens du projet, qui venaient avec diapos et tout, vous savez, comme ils font, PowerPoint, tout ça, pour expliquer à quel point c'était extraordinaire. Et j'avais jamais rencontré une chose pareille. Ils se sont fait torcher, comme on dit à Marseille. Ils se sont fait plier en mille sur la question technique. C'est-à-dire pas tellement sur la question de politique générale, c'est-à-dire pourquoi dans les quartiers sud, pourquoi dans les quartiers nord, mais sur les questions techniques. C'est-à-dire ce n'est pas ce qu'il faut pour la population, ce n'est pas ce qu'il faut pour le traitement des déchets. Il y a d'autres solutions. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec les solutions elles-mêmes, mais la dynamique de l'affaire est absolument stupéfiante, parce que c'est sûr que parmi ces 150 à 160 personnes, 200, il n'y avait aucune compétence au départ. Zéro. C'est pas exactement le problème que vous citez avec des experts. Il y a ça aussi. Hein, donc c'est un autre modèle encore plus basique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment aucune expertise. D'ailleurs, moi non plus. Enfin, bon, personne au départ peut être expert de quelque chose d'aussi précis. Mais... Et là, à partir du moment où les gens étaient directement concernés, c'est une deuxième condition. Hein, c'est-à-dire que la première, c'est l'augmentation générale du niveau d'éducation, même dans ces quartiers-là, finalement. Bon, l'éducation est quand même sans comparaison à ce qu'on avait au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Et deuxièmement, l'engagement des gens. C'est-à-dire que ça les concernait directement. Il fallait savoir si oui ou non ça allait venir. Eh bien, c'est faisable. Il faut des efforts, il faut de la mobilisation, il faut de l'intelligence. Mais c'est tout à fait faisable que les gens d'incompétents gagnent en compétences. Mais le choix de départ, c'est de dire, Eh bien, écoutez, c'est à vous quand même, c'est votre parole, sinon qui doit décider, parce que ce n'est quand même pas 200 personnes qui décident pour 1 million de personnes à Marseille, mais votre parole compte, elle va compter, et à partir de ce moment-là, c'est une des démonstrations, et là, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres ailleurs, qui montrent que ce sont des choses faisables. Est-ce que c'est faisable sur toute la question? C'est une discussion qu'on aura tout à l'heure, hein, parce qu'évidemment, là, il faut regarder dans le détail quelles sont les autres conditions qui permettent une telle chose. Mais l'idée que on peut combiner ce qui est apparemment totalement contradictoire, c'est-à-dire l'incompétence de base de tout le monde, parce qu'en fait c'est le cas de tout le monde ici autour de la table, on ne peut pas être compétent sur tout, c'est absolument impossible. Donc on part du point de vue, on est incompétent. Les gens hésitent à dire ça, parce qu'ils craignent que si on s'avoue incompétent, alors c'est le pouvoir des experts. Mais il faut dire le deuxième terme de la contradiction, dire on est incompétent, c'est quand même nous qui devons décider. Alors voilà, c'est le problème, oui on l'est, mais c'est quand même nous, sinon il n'y a pas de démocratie. Et comment on fait pour combiner ces deux termes de la contradiction, deux termes de l'alternative? C'est pas toujours facile, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'avec des modalités très diverses, les conférences de citoyens, les conférences de consensus, les tirages au sort, les gens mobilisés, il y a plusieurs voies qui permettent de signaler qu'il peut y avoir des solutions à la question. C'est pas facile, mais c'est possible.
D'accord, mais c'est intéressant. Je pense que dans le débat après, peut-être il y a d'autres exemples qui peuvent exister. En tout cas, ce que je pense est très important, c'est que ce genre d'exemple soit plus connu, que d'autres entendent parler, que ça peut encourager d'autres à entreprendre ce genre de démarche. Mais je pense qu'on peut peut-être continuer quand même avec notre petit tour, c'est au fond des introductions, des premières interventions. Avec, je propose, je crois que c'est Michel, Jean, non ? C'est ça? Parce que moi, je regarde un peu ce que vous avez, enfin, chacun a fait pendant cette semaine, et je vois que vous avez évoqué la question de science et technosciences ou les limites de la science. Bon, vous avez déjà évoqué ça hier, mais pour cette émission, ce serait intéressant que peut-être donner au moins un petit résumé.
Oui, merci. En fait, la technoscience est un nouveau mot qui est apparu relativement récemment. Et pour le définir, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la science et sur ce qu'est la technique. Bon, la science, en fait, c'est la connaissance et l'ensemble des méthodes qui permettent de la faire progresser. En fait, c'est peut-être plus commode de parler des sciences. Bon, qui sont des disciplines, c'est-à-dire des connaissances enseignées et étudiées. Alors, donc, les disciplines, nous avons les mathématiques, bon, la physique, l'astronomie, et puis on peut glisser vers les sciences littéraires, les sciences humaines, etc. Donc, dans ces sciences, qu'est-ce qu'une science? Finalement, c'est quelque chose qui fait appel au raisonnement inductif, déductif et surtout contradictoire, et enfin à l'expérimentation. Alors, il y a des sciences qui sont réputées exactes, comme les mathématiques, et d'autres qui font appel à des hypothèses, des conjectures, etc. Et de toute façon, toutes les sciences sont remises chaque fois. Les connaissances sont remises en question, y compris en mathématiques. La technique peut se définir un petit peu simplement comme l'art de l'ingénieur, c'est-à-dire la faculté de mettre en application les connaissances. Voilà. Alors, historiquement, il y a eu une préséance des sciences sur les techniques, et même des choses, disons, assez désagréables, puisqu'on pouvait parler de sciences pures ou de sciences nobles ou de sciences moins nobles, et qu'en général, le critère, c'était que plus c'est inutile, plus c'est pur, et puis plus c'est appliqué, et moins c'est noble. Bon, alors, évidemment, on en est revenu, heureusement, ça a mis du temps. Il y a eu une certaine difficulté de la part des scientifiques, pas tous, hein, à s'intéresser aux applications. Alors, le mot technoscience a fait son apparition relativement récemment, et disons qu'il essaie de combler ce vide ou ce divorce qui existe entre les sciences et l'art de l'ingénieur.
Micro plus bas.
Ah, merci. En fait, il y a une définition qui est assez satisfaisante et que je devrais trouver dans mes notes. Bon, mais laissons tomber. Alors qu'en fait, il s'agit bien de combler ce vide entre les sciences et les techniques. Bon, le mot technoscience, voilà, j'ai retrouvé mes notes, a été introduit par le philosophe belge Gilbert Autois et il est devenu d'usage courant dans les années 1990. Alors, une belle définition, à mon avis, de technoscience, c'est néologisme désignant l'interaction entre science et technique en vue de la production d'innovation pour une recherche finalisée. Alors, c'est là qu'on voit que il y a un glissement qui est possible et, bon, et qui s'opère, c'est que le mot innovation, il a une connotation désagréable. Innovation, ça veut dire quelquefois fabrication d'un produit utile, souvent inutile, à des fins commerciales. Et donc petit à petit, la tendance s'est inversée et maintenant on assiste à une préséance des techniques, disons, sur la science, au sens où c'est l'usage, bon, c'est la fin commerciale qui va fixer, il va y avoir une certaine pression pour fixer les orientations. Alors, il y a un exemple qui est très clair, bon, ce sont les nanotechnologies. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans les nanotechnologies. Ce sont des choses qui sont très difficiles à comprendre. Mais il y a eu au mouvement, il y a eu aux États-Unis un mouvement qui s'appelle les théories de la convergence, bon, dans lequel il est prétendu que finalement on peut fabriquer des produits en manipulant uniquement les molécules, enfin en construisant l'état de molécules, et pour fabriquer des produits qui sont définis par qui, par quoi, et qui posent énormément de problèmes sur le plan éthique. Voilà.
D'accord. Mais peut-être on peut continuer. En tout cas, devant moi, j'ai une petite liste de personnes qui étaient prévues. Donc, il y a Marita Bourriesch. Alors là, peut-être on va entrer dans un autre domaine. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, peut-être le même questionnement sur les choix citoyennes ou enfin la question de science et démocratie. Mais vous travaillez plus sur la question... vous êtes agronome, ingénieur agronome. Bon, on pense tout de suite à les questions style OGM, mais il y a beaucoup d'autres questions liées à l'agriculture, etc. Alors, je ne sais pas, je vous laisse le soin de parler de ce que vous souhaitez.
Tout à fait. Moi, je voulais revenir un peu sur mon parcours personnel. Donc, j'ai une formation scientifique et comme vient de le dire Michel Jean, pour être ingénieur agronome et donc pour appliquer un peu tout ce qui est mis au point par la science, si on peut dire. Et donc, dans mon parcours professionnel, les premières années, j'ai appliqué ce qu'on m'avait enseigné. Et j'ai bien vu que ça ne correspondait pas tout à fait à... Enfin, ça n'allait pas dans le bon sens pour moi. Donc, j'étais conseillère agricole en arboriculture fruitière et pour faire repousser des pommiers ou des poiriers, on m'avait inculqué, comme on a inculqué à tous les arboriculteurs, hein, parce qu'ils sont passés tous par des écoles d'agriculture, qu'ils ne pouvaient pas se passer de pesticides, ils ne pouvaient pas se passer de fertilisants chimiques. Et c'est la remise en question de tout ça que j'ai fait progressivement. Et c'est vrai que quand on se pose la question de est-ce que c'est bien pour l'environnement, est-ce que c'est bien pour la santé, on remonte le fil et puis on s'aperçoit qu'il y a des solutions alternatives, il y a d'autres façons de faire pour qu'il y ait beaucoup moins d'impact. Mais je me suis aperçue qu'il y avait quand même pas mal de questions qui étaient en fait des choix de société, des choix politiques. Je me suis investie, c'est vrai, au niveau associatif par rapport à tout le mouvement, le mouvement qu'on peut qualifier d'écologiste. Et donc les manifestations contre le nucléaire. Et puis à un moment donné, il y a une quinzaine d'années maintenant, est apparue la question des OGM. Et on s'est tourné, enfin les collègues se sont tournés vers moi un peu parce que je travaillais sur ce qu'on appelle les ressources génétiques, c'est-à-dire les anciennes variétés, les ressources génétiques, c'est composé de l'ensemble des variétés qui sont cultivées, y compris les anciennes variétés et leurs parents sauvages. Et puis, tout ce qui concerne les races locales, animales, qui sont élevées dans chaque territoire. Et on m'a dit, et les OGM, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et là, du coup, comme l'ont dit Pierre Leroy et Michel Josua, c'est poser la question d'avoir une compétence sur le sujet. C'était quelque chose que moi, je n'avais pas abordé dans mes études. Et donc, on se forme là-dessus. Et j'ai vu une certaine similitude aussi dans les positions qui sont prises en tant que choix politique au niveau de la société et les relations de ces politiques avec les citoyens, de dire que ce soit aussi bien pour le nucléaire que pour les OGM, c'est trop compliqué, c'est affaire d'experts, c'est pas la peine que vous essayiez de comprendre, vous n'y arriverez pas, parce qu'il faut avoir Bac plus 9 pour comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est comme... j'ai essayé donc d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant d'expliquer qu'est-ce que c'était les OGM, puisque c'était le domaine moi, sur lequel je me suis penchée le plus possible. Mais bon, ça ne m'a pas empêchée, encore cet été, d'aller donner mon avis sur ITER lors de l'enquête publique. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il faut qu'on responsabilise nos concitoyens pour qu'ils se sentent concernés, et parce que c'est des choix qui vont peut-être pas les concerner eux directement, mais sur du moyen terme ou sur du long terme vont concerner leur famille et leur façon de vivre. Et ça, moi, je pense que c'est très important. En parlant de famille, tout le côté, quand j'ai eu une famille, quand j'ai eu des enfants, j'ai remis en cause beaucoup de choses aussi dans mon attitude. Et c'est un biais aussi par lequel on peut dire aux gens, ce que vous mangez, ce n'est pas anodin. Le fait qu'il y ait des centrales nucléaires, ce n'est pas anodin. Le fait qu'il y ait des usines chimiques, dans la vallée de la Durance, on en a plusieurs. On a la Durance qui est absolument polluée, y compris avec du mercure, avec des choses comme ça. On a une directive européenne sur l'eau, une directive cadre sur l'eau qui impose une réduction des émanations toxiques dans les eaux et non pas une interdiction, donc la réduction d'ici 2020. Bon, je veux dire, il y a le temps. Alors qu'il y a certaines substances, il faut absolument les proscrire, il ne faut plus en entendre parler. Moi, je crois qu'il faut arriver à faire passer ces idées. Il faut savoir aussi que les structures qui gagnent beaucoup d'argent, notamment avec les pesticides ou les OGM, parce que ce sont les mêmes firmes, gagnent beaucoup d'argent donc avec ces applications de produits chimiques, rendent les gens malades, et c'est les mêmes qui vendent les médicaments, puisque c'est les fameux consortiums qu'on appelle de la phytopharmacie. Donc, d'un côté, il y a la partie pharmacie, les Bayer, les Sibagégy, les Dupont de Nemours, les Rhône-Poulin qui s'appellent plus maintenant comme ça, mais qui existent toujours, Syngenta et compagnie. Bon, ils sont à la fois sur le pharmaceutique et à la fois sur les pesticides. Et eux, c'est des véritables puissances. Ils ont des lobbies depuis de très nombreuses années. Ils ont une action de lobby qui est très importante, jusqu'à faire voter des lois qui leur soient favorables. Même au niveau pharmaceutique, hein, j'entendais tout à l'heure, donc des médicaments à base de plantes qui sont déremboursés parce que leur action est soi-disant pas suffisamment efficace. Et on voit nettement que les médicaments qui sont mis sur le marché sont d'abord des molécules très simples et qui ont des actions très dures avec des effets secondaires souvent incontrôlés. Et l'actualité de ces dernières années nous a montré que les effets secondaires sont cachés. Hein, l'affaire du Mediator est exemplaire là-dessus. Et on s'aperçoit bien que, justement, en cachant une certaine partie de l'information scientifique, on va induire un positionnement social ou sociétal particulier.
Bien. Peut-être on peut proposer, oui, ouais, allez-y, mais je voulais aussi dire qu'on a fait un petit tour là, donc des personnes qui étaient censées déjà faire une petite intervention. Donc si jamais il y a des personnes qui voudraient soit poser des questions, soit intervenir, allez-y, dans le public.
Brièvement, j'ai la conviction que le pouvoir scientifique est entièrement coulé lui-même dans des enjeux de pouvoir politique, dans des niveaux de dureté qui me semblent absolument plus compatibles avec le fonctionnement d'une quelconque démocratie. En particulier, même le pouvoir financier use des capacités scientifiques, puisque je crois savoir que 30% de nos promotions de polytechnique sont utilisées par le pouvoir financier. À ce niveau-là, que peut faire encore la démocratie ?
Donc, on a beaucoup parlé, là, j'ai beaucoup entendu le niveau de connaissance du citoyen pour pouvoir décider en conscience. Or, à mon avis, ce n'est pas le niveau de connaissance, au sens strict du terme connaissance, c'est le niveau de formation, c'est le niveau de citoyenneté des citoyens qui permet à chacun d'être capable de ce que vous disiez sur les incinérateurs. Les gens, avec une volonté et une capacité à acquérir, ils ont acquis la connaissance pour pouvoir, je vais utiliser le terme de tacler, les soi-disant techniciens de la technoscience des incinérateurs. Donc ils n'avaient pas de connaissances, mais ils avaient les capacités à les acquérir, quoi. Donc c'est cette capacité-là que l'éducation devrait nous amener, être des citoyens, quoi, être en capacité de pouvoir appliquer science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Enfin bref, donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, par rapport à l'état actuel de notre politique globale et de notre système de direction de l'administration, c'est évident que les pressions qui sont des pressions entre guillemets économiques sont absolument colossales, et que l'administration se laisse faire à ne pas appliquer la loi. Évidemment, c'est simple pour moi de citer des dossiers que je connais bien, mais c'est comme ça qu'on peut mettre au jour les problèmes. Moi, j'ai lu, je l'ai dans différents endroits, bien planqué dans différents ordinateurs, un dossier du 16 avril 2007. En page 3, vous avez la phrase suivante. Le pétitionnaire n'a pas étudié les effets du produit sur le public concerné, entre parenthèses, enfants, animaux domestiques. Il suffira d'attendre le séchage complet de la zone traitée avant d'y pénétrer. Roundup Express, Monsanto, dossier de l'AFSA. Donc, voilà, moi j'appelle ça de la corruption claire. Si le pétitionnaire n'a pas étudié les effets, pétitionnaire donc c'est Monsanto, les effets du produit, ce qu'on entend sur le médiateur, c'est rien à côté de ça, puisque le médiateur a été étudié et ils ont caché les études. Là, carrément, l'administration dit bon, ben, ça n'a pas été étudié, mais c'est une modification mineure de composition. On a rajouté un détergent un peu plus costaud que celui d'avant. Mais, et l'administration, je l'entends encore me dire, directrice de la DGAL, Direction Générale de l'Alimentation, mais on a tellement de dossiers sur les mêmes produits qu'on nous ramène parce qu'il y en a un qui va traiter les rosiers et l'autre qui va traiter le maïs Roundup Ready, parce qu'il y a un Roundup pour le maïs OGM qui n'est pas autorisé en Europe. C'est des modifications mineures de composition, on ne vérifie pas et on signe à la chaîne. Donc voilà, on est dans une situation où non seulement on ne met pas les citoyens au courant, mais l'administration signe des dossiers en connaissance de cause qui sont des faux.
Mais moi, si je me peux me permettre, je voudrais peut-être reprendre aussi des questions qui sont liées à l'agriculture, on pourrait dire, ou à notre alimentation. Et je trouve qu'il y a deux exemples. Actuellement, on a l'exemple du Cruiser. Enfin, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les procès actuels, il y a certainement des gens dans la salle mieux informés que moi. Mais en tout cas, il y a les experts, il y a tout le monde, certains experts, en tout cas, qui disent clairement, c'est prouvé que c'est catastrophique, surtout pour les abeilles. Mais en tout cas, en général, c'est catastrophique. Et or, le gouvernement persiste à poursuivre, à autoriser la question. Juste un instant, mais je voulais citer un autre cas qui est un peu différent dans la question des semences, parce que il y a, vous savez probablement, mais il y a des lois au niveau européen qui sont de plus en plus, ou mondiales même, de plus en plus restrictives par rapport au droit de semer ou ressemer ses propres variétés de légumes ou autres. Et en fait, on a entre autres une organisation en France qui est assez connue maintenant, qui est Cocopelli, qui a été même condamnée, qui a des procès sur le dos, mais finalement continue à exister. Pourquoi? Parce que cette organisation-là a un soutien énorme d'une population très vaste. Il y a des dizaines de milliers de gens qui soutiennent Cocopelli. Et finalement, cet appui-là permet à continuer, en quelque sorte, malgré des condamnations, etc. Donc, probablement, dans ces cas, malheureusement, peut-être encore, les apiculteurs et ceux qui mangent le miel, par exemple, ne sont pas encore assez montrés, quoi, et de créer une force citoyenne, si on veut l'appeler comme ça, qui va contraindre le gouvernement à peut-être changer de position. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je vais répondre très factuellement, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Sur le alors, Gauchot, Régent et Cruiser, la procédure d'autorisation des produits phytosanitaires est très claire. Il faut apporter un certain nombre de tests d'expertise, mais ne parlons même pas de ça. Ils doivent être amenés en bonne et due forme. Ce que je viens de dire sur le Roundup, ce n'est pas fait déjà. Donc, dans le cadre du Régent, qui est un insecticide qui monte dans la fleur depuis la graine, il fallait respecter une procédure très précise. On dépose auprès de la DGAL les dossiers qui prouvent que le produit n'est pas toxique pour les abeilles, pour les vers de terre, ni pour les consommateurs. Et ces dossiers n'étaient pas remplis. Le Régent était 11 000 fois plus toxique que la norme sur les larves d'abeilles, qui est de 50. C'est une norme calculée, mathématique. Donc les insecticides ne doivent pas dépasser la norme 50. Et le Régent était affiché à 11 000 dans les dossiers. Le ministre de l'Agriculture de l'époque a donné deux autorisations provisoires de 2 ans, ce qui n'est pas réglementaire. L'autorisation provisoire est autorisée pour 2 ans, puis renouvelable dans le cadre d'une autorisation définitive de 10 ans, mais avec une période d'observation de 2 ans. Donc on est sous un régime de 3 niveaux de durée. 2 ans plus 2 ans dans 10 ans. Le Cruiser, alors là c'est absolument effarant, le Cruiser a eu 3 autorisations provisoires de 1 an. Lesquelles autorisations provisoires de 1 an n'existent pas dans la loi. Mais les ministres successifs ont signé ces autorisations provisoires de 1 an, qui viennent d'être toutes cassées successivement par le Conseil d'État. Et la quatrième autorisation provisoire de 1 an, qui est donc, on croit rêver, l'obtenteur de la molécule avait simplement changé le nom. On était passé du Cruiser au Cruiser 350. C'était la même préparation. Et Bruno Le Maire, actuel ministre de l'Agriculture, a à nouveau signé cette autorisation provisoire. On croit délirer. Vous faites ça avec votre maison, vous dites, je vais faire des fenêtres de 1,10 m sur 2 m de haut. La DDE vient vous dire, non, il va falloir refaire vos fenêtres pour qu'elles fassent cette taille-là. Et là, les industries chimiques ont le droit de... Et le ministre appose, et nous, sur les dossiers Roundup que nous avons déposés avec Génération Future, pour les faire annuler, Monsanto nous a répondu, mais messieurs, enfin, monsieur Marais et monsieur Génération Future, nous avons le tampon de l'administration, nous avons le tampon, allez vous faire voir. C'est pas notre problème, c'est le problème de l'administration. Et l'administration accepte les produits, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans lesquels les tests ne sont pas faits. Je pourrais rentrer plus dans le détail sur les tests du Roundup, parce que je commence à les connaître par cœur, mais normalement, la molécule doit être testée, les adjuvants doivent être testés, et le mélange doit être testé. Et vous pouvez aller partout en France, moi je suis allé à Luxembourg et à Bruxelles pour chercher les dossiers, il n'y a que des tests sur le glyphosate. Il n'y a pas de tests sur le Roundup. Sauf une seule fois où ils ont mis... Alors on croit aussi, on se dit, on n'est pas dans ce monde-là. Ils ont pris des chiens, des beagles, et ils leur ont mis du Roundup en intraveineuse pour voir s'ils résistaient, évidemment. Et ils disent, mais c'est pas le glyphosate, vous inquiétez pas, c'est le détergent. Mais le détergent, c'est une molécule non active, non répertoriée, avec des noms barbares, POEA, POPA. Et donc, quand on fait les analyses du Roundup, on ne retrouve même pas le seul détergent actif autorisé par la loi. Ils en mettent d'autres, ce que je disais tout à l'heure, les modifications mineures de composition. Mais quand vous utilisez du savon noir ou du savon de Marseille ou du savon d'Alep, vous savez que ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais là, l'administration accepte les produits comme ça. Donc on est dans un espace de non-droit. Ce n'est même pas du déni de droit, c'est un espace de non-droit. Par rapport aux semences, de façon extrêmement rapide, je ne connais pas de près le réseau Cocopelli, je leur ai acheté des semences, mais je suis membre par la base du réseau Semences Paysannes, qui fait à peu près les mêmes choses sur le droit de ressemer nos propres semences en tant que paysans. Et c'est extrêmement important, mais également sur les animaux, nous sommes en train, en tant que paysans, de nous faire supprimer le droit d'utiliser les mâles pour reproduire sur notre même troupeau, parce que les ruminants, à partir du 1er janvier 2015, vont devoir être testés en station avant d'être réutilisés dans les élevages, ce qui est complètement effarant, quoi.
Et qui est très peu connu. Même, nous avons constaté ça chez nous, parce qu'il faut dire que nous avons aussi des éleveurs dans notre coin, et puis même des vétérinaires et des éleveurs, ils sont peu au courant de cette réglementation en 2015, qui est très très bientôt, et qui va complètement bouleverser l'élevage.
Qui va supprimer les petits élevages qui s'échangent des mâles. Et ça, il faut savoir que... un troupeau de brebis, c'est un bélier pour 40 à 50. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire tous les ans, tester. La moyenne des troupeaux doit être de 400, je crois, à peu près. Donc, ça fait une dizaine de mâles à faire tester tous les 3 ans. C'est financièrement insupportable, parce que les troupeaux de brebis ne vivent que de façon extrêmement instable, avec très peu de revenus.
Il faut dire que ça va aussi créer toute une nouvelle espèce d'industrie qui est les certificateurs ou des contrôleurs. Enfin, on a vu ça un peu avec d'ailleurs les semences, mais c'est quelque chose qui va être un poids supplémentaire, quoi, pour les éleveurs. Mais je crois que Pierre, c'était Jacques Marais qui vient de parler, c'est bien qu'on répète ça pour la radio. Et maintenant c'est Pierre Leroy, donc, qui est maire de Puy-Saint-André.
Pour revenir à la démocratie citoyenne, la semaine dernière j'avais une discussion avec mon fils, j'ai un fils qui a 21 ans, et donc je lui disais, je ne sais pas si tu as choisi la date, mais le fait que tu sois né à l'époque où tu es né, tu as une chance inouïe, parce que dans les 30 ans qui viennent, il va se passer quelque chose qui ne se sera jamais passé dans l'histoire de l'humanité. Donc là, on arrive à un passage qui est essentiel. Les décisions qui vont être prises là maintenant, c'est l'existence ou pas de l'humanité. Donc on peut parler de la science, mais au-delà de ça, c'est notre existence, l'existence en tout cas des générations futures, qui va être décidée là, à très très court terme. Et on va assister à ça. Donc c'est quand même exceptionnel. On a une chance inouïe. J'espère qu'on sera encore là, nous, pour voir ce qui va se passer. Mais il y a des enjeux qui sont phénoménaux. Et je lisais il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, le livre de Jared Diamond sur effondrement. Donc Jared Diamond a étudié toutes les sociétés anciennes qui ont disparu. Et puis des sociétés qui ont vécu aux mêmes latitudes, aux mêmes époques, qui, elles, n'ont pas disparu. Il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a certaines qui n'ont pas disparu. Et donc, il a étudié les raisons pour lesquelles ces sociétés avaient disparu ou s'étaient maintenues. Et une de ses conclusions, le livre, je vous cite juste une des dernières conclusions qui m'avait passionné, c'est que la seule solution pour que les sociétés puissent perdurer, c'est qu'il y ait des décisions politiques majeures qui remettent en cause les fondements même de ces sociétés, mais impérativement associé avec la volonté des citoyens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une société où il y a eu des décisions majeures prises par les politiques sans la volonté des citoyens nettoyée, et inversement, même chose. Donc il a fallu la conjonction simultanée d'une volonté politique et d'une volonté citoyenne simultanée. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt optimiste parce que quand je vois ce qui se passe, je vous parlais tout à l'heure des Transition Town, où il y a quand même des mouvements en profondeur qui naissent dans pas mal de villes dans le monde entier, en particulier en Australie, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis aujourd'hui. Il y a le mouvement des indignés, là, dont on parle encore aujourd'hui. Il y a eu les primaires écolo, les primaires socialistes. Mine de rien, on sent que petit à petit, il y a... Alors, on a peut-être eu la chance d'avoir Sarkozy, entre guillemets, qui peut-être a mobilisé les foules et que cette politique n'est plus supportable aujourd'hui. Et de ce fait-là, les gens peut-être ont l'envie de se réapproprier le politique. Et moi, ça me semble essentiel aujourd'hui. Et je me dis, il se passe peut-être quelque chose là. De toute façon, on n'aura pas le choix. Il va falloir qu'à très court terme, on s'empare des décisions politiques, des décisions scientifiques qui mènent le monde aujourd'hui. Donc moi, je suis plutôt optimiste en sachant qu'en tant que politique, je pense qu'on a une responsabilité importante. C'est qu'aujourd'hui, les gens savent. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est informé. On sait ce qui nous attend entre la raréfaction des énergies fossiles, entre le réchauffement climatique, entre tous les problèmes qu'on a cités au niveau scientifique, entre les problèmes, la crise sociale, la crise financière. Aujourd'hui, franchement, il ne s'agit pas de savoir, on le sait. Il s'agit de croire ce qu'on sait. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Et nous, en termes politiques, je pense qu'on a une forte responsabilité dans le sens où l'avenir n'est pas noir. La sobriété heureuse... C'est tout à fait possible de la mettre en œuvre. Faut-il encore qu'on arrive à persuader les gens que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce n'est pas la panacée, hein. Ils s'y accrochent, mais c'est insupportable ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans une société, en tout cas la société française, où on vit dans une consommation à outrance, mais elle ne nous rend pas heureuses aujourd'hui. Donc la sobriété, finalement, c'est une piste à étudier, mais nous, en termes politiques, on a le message à faire passer qu'il y a un avenir positif. Oui, on est dans la merde aujourd'hui, mais demain, en changeant nos façons de vivre au quotidien, on va vers du meilleur.